Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Frère Paul et frère Jean-Michel ont choisi la vie monastique. Ils vivent au rythme des prières et des saisons. En réalisant une série d'interviews sur la sobriété heureuse, je n'avais jamais pensé à la vie des moines qui sont dans une démarche de pauvreté choisie et de simplicité volontaire dans leur quotidien. Vivant dans un ermitage, produisant presque l'intégralité de leurs besoins, allons à la rencontre de frère Paul et frère Jean-Michel qui reviennent sur leur arrivée au monastère et nous parlent de leur quotidien.
On s'est installé dans cette maison qui était abandonnée donc depuis les années 63. Donc on s'est installé, le père s'est installé en 74 ici. Voilà. Et voilà, la maison était abandonnée, les terres étaient en friche, puisque c'était une petite ferme qui vivait en autarcie, complètement.
Sans eau, sans électricité.
Alors ils avaient une source, bien sûr, mais qui n'arrivait pas, bien sûr, là. Hein. Il fallait aller chercher l'eau avec un broc, quoi. Et puis pas d'électricité. Elles achetaient du café pour payer aux visiteurs et quelques habits, c'est tout. Tout le reste sortait de la propriété. Voilà. Tout le reste sortait de la propriété. Tout, ils faisaient leur grain sec, ils faisaient de l'huile d'olive, donc beaucoup d'huile d'olive. Il y avait des oliviers congelés en 56. Bon, mais enfin, jusqu'en 56, il y avait de l'huile d'olive. Et puis, il y avait des moutons, il y avait des chèvres, il y avait les abeilles pour le sucre. Et puis, voilà, tout le reste, quoi. Je sais pas exactement tout. Ils faisaient toute leur culture.
Et quand vous êtes arrivé ici, quel était le projet de départ? C'était donc de reprendre...
Le projet de départ, c'était une vie monastique toute simple. On n'avait pas de schéma... Autre, c'était donc de trouver un lieu de solitude.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc pour cette rencontre avec soi, le fait de choisir une démarche de vie simple, ça peut aider.
Je pense, oui. Oui, ça peut aider parce que le problème, c'est justement de créer un petit peu un creux et un vide, enfin, entre guillemets, j'allais dire, le mot vide peut être ambigu, mais au moins, petit à petit, de découvrir qu'on porte profondément un creux dans notre vie et que c'est plutôt quelqu'un qui va venir dans ce creux. Voilà. C'est une attente, en fait, de cette vie intérieure qui est déjà en nous, mais qui a besoin d'être révélé par une rencontre, quoi, j'allais dire. Et donc, pour cela, il faut quand même un peu de creux, il faut un peu de vide, il ne faut pas être envahi par les médias de tous les côtés, etc. Quoi. Et il faut forcément, il faut que certaines conditions qui favorisent. On peut être, cette rencontre peut se faire au milieu de la foule, hein, elle peut se faire, ça, on n'est pas les maîtres de cette rencontre. Mais malgré tout, si on veut un peu la cultiver ensuite, ben forcément, on est appelé à faire des choix, un petit peu de vie, quoi. Des choix de simplicité, des choix de, voilà, ce que vous appelez la sobriété heureuse, j'allais dire. Ben voilà, ça pourrait être ça, mais qu'on a fait du, voilà, poussé par cette rencontre un petit peu intérieure.
La sobriété heureuse, c'est vrai qu'il y a deux mots, il y a le mot sobre et le mot heureux. Qui c'est qui a envie de me définir, donner sa définition des mots? Qu'est-ce que c'est être heureux?
Peut-être je définis par le mot, mais je préfère plutôt, je voulais faire un petit accrocher un peu ce que disait Jean-Michel, qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui marchent, donc ils ont peu de choses, ils ont peu de bagages, ils sont légers et qui sont émerveillés. Je viens de rencontrer donc deux jeunes qui étaient sur la montagne, qui marchaient, qui venaient de la ville, qui étaient tout, ils disaient, on n'a besoin de rien, tout est là. Ils étaient dans une joie, ils venaient de voir le lever de soleil. Donc la plupart des gens sont dans les campings, entassés les uns sur les autres, et dans la montagne, tout proche, il n'y a personne qui marche pratiquement. Ils avaient compris, vous avez tout compris, ils étaient heureux, ils avaient tout. Ils n'avaient rien, mais ils avaient tout.
On n'avait rien, mais on avait tout.
Un des problèmes de notre monde, je pense, c'est que justement, moi, c'est une dame qui me disait ça un jour, que j'allais commander un livre dans une librairie, et elle cherchait l'auteur, etc., sur son ordinateur, et il y en a tellement, elle me disait, dans notre monde, il y a trop de tout, Et voilà, je pourrais dire qu'elle résumait, elle résumait un peu la situation, je trouve, actuelle, où finalement, en Occident, du moins, on a trop de tout. Et il faut qu'on finisse par peut-être laisser quelques petites choses de côté. Ça nous coûte, ça peut coûter beaucoup, mais à faire des choix de vie pour retrouver simplement des choses essentielles qui nous aident à vivre et qui nous phagocytent pas trop les choses et la vie, quoi.
Je suis très sensible au mot essentiel. Ce serait quoi cette quête d'essentiel? Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans cet essentiel?
La communion, l'altérité, l'amour, l'amour qui est service, l'amour qui est patience, recherche de vérité, cohérence.
La cohérence.
Non, je pense qu'aussi, c'est peut-être la pauvreté, justement. La pauvreté, mais la pauvreté intérieure, je parle. Parce qu'on n'a pas du tout le sentiment d'être pauvre, nous, au point de vue. On a tout ce qu'il nous faut. Hein. On a ce qu'il nous faut. Mais j'allais dire que dans notre vie, nous, ce qu'on cherche un petit peu et ce qu'on demande comme une grâce, c'est petit à petit d'être conduit à une vraie pauvreté intérieure. Et dans la pauvreté intérieure, justement, on a l'essentiel et on a à la fois rien, on sent qu'on est extrêmement fragile, qu'on est des pauvres devant Dieu et devant nos frères, mais voilà, on est là dans la vérité, dans notre vérité au fond, dans notre nudité, dans notre vérité. Et c'est là qu'on trouve, je pense, la vraie joie un petit peu. Et voilà, et une certaine vie, et voilà, toute simple, et qui est un peu universelle, qui se retrouve dans toutes les traditions. C'est pas une question d'être chrétien uniquement. Nous, notre chemin passe par le Christ et passe par le... Mais voilà, il y a peut-être d'autres chemins où on peut se rencontrer, au moins faire un bout de chemin ensemble.
Mais à vous entendre, la pauvreté est une richesse, mais ça, c'est quand elle est choisie. Mais quelquefois, la pauvreté est subie.
Oui, mais justement, c'est à ce moment-là que même si elle est subie, c'est là l'accueil, quoi. C'est même une pauvreté subie, qui est plus difficile, évidemment, mais si elle est à ce moment-là accueillie en disant ben, « c'est peut-être un chemin pour moi », elle devient justement quelque chose de choisi.
Donc finalement, tout est dans l'esprit, dans la pensée, dans la manière de voir les choses.
Je pense, voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on fait une démarche, mais finalement, la pauvreté qu'on rencontre n'est pas du tout celle qu'on avait pensée au départ. On a été dans un lieu un peu comme ça. Bon, il y avait certaines... On avait beaucoup d'illusions. Hein, mais finalement, on rencontre une pauvreté petit à petit qui n'est pas celle qu'on aurait choisie. Parce que c'est une pauvreté beaucoup plus profonde. C'est une pauvreté de notre intérieur, de se rendre compte de notre fragilité, de nos faiblesses, qu'on tombe toujours dans les mêmes ornières, mais qu'il faut se relever tout simplement dans la confiance. Et voilà, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à accueillir qu'une pauvreté idéale, voilà, de choix de vie, quoi. Et je pense que c'est cette pauvreté-là, à mon avis, qui nous conduit vraiment à l'essentiel et à une vie, à avoir des mains vides. Enfin, moi, j'aime bien cette expression, des mains vides à offrir, tout simplement. Voilà. On est des pauvres. Ce qu'on a appris dans la vie monastique, c'est ça, c'est qu'on était des pauvres, c'est tout. On n'est pas meilleur que nos pères, on ne fait pas un choix de vie meilleur qu'eux. On est là avec notre pauvreté. Eux, ils ont eu la leur, chacun dans le monde a sa pauvreté, voilà. Et petit à petit, s'ils la découvrent à travers des épreuves, à travers des crises, à travers parfois des effondrements, j'allais dire, et ben petit à petit, ça peut devenir un chemin qui conduit à la vraie vie. Voilà.
Mais c'est incroyable parce que ce discours-là, il est révolutionnaire. Donc dans la pauvreté, aujourd'hui, dans la société moderne, on y associe le malheur, la tristesse, alors que pas du tout.
Ben non, je pense pas. Je pense que si c'est... à condition de l'accueillir et de l'accepter. Voilà, je crois que c'est ça la grande condition. Ça peut être un malheur, effectivement. Il y a des situations de misère et de grande pauvreté qui sont des obstacles pour certaines personnes. Et donc là, ça devient un malheur, effectivement. Ou du moins, c'est un chemin difficile. Mais il y a des gens qui sont dans une très grande pauvreté. On le voit dans les pays qui sont en développement, tout simplement, mais ou dans les camps de réfugiés et tout. On a des gens qui sont rayonnants, tout simplement, alors qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien. Solzhenitsyn disait ça dans les camps, quand il a vécu dans les goulags hein, en Russie et tout. Il disait, voilà, ce qui nous attend à nous, ce qui nous attend, c'est quoi? C'est l'hôpital, c'est les tranchées, c'est les travaux durs dans le froid et dans la nuit. Mais voilà, on a la paix intérieure, cette grande paix qu'il est si difficile, en fait, de trouver dans la facilité. Et c'est une paix qui dure. C'est une paix qui dure. Nous, on a des paix qui disparaissent très vite, quoi. Et cette paix qui dure, elle se trouve qu'au bout d'un chemin d'épreuves et de vie qui mais qu'on ne choisit pas tellement, hein, c'est des épreuves qui arrivent à tout le monde dans la vie.
Il y a des phrases comme ça que je trouve inspirantes. J'aimerais bien que, si vous en aviez, vous les partagiez. Je pense à celle de Gandhi qui dit « vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre ». Peut-être que vous avez, vous aussi, des phrases comme ça que...
Moi, je pense aussi à la parabole de l'Évangile, où celui qui a trouvé une grosse perle de grosse valeur, et de nouveau, il cache les trésors, et tous ces petites perles, il le vend pour acquérir ces grosses perles. Et pour nous, c'est ça, le gros perle, c'est l'essentiel. Pour nous, c'est le Christ, suivre le Christ, l'amour, tout ça. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on se rend bien compte que finalement, on a succombé à la tentation au désert. Il y a 30 grandes tentations dont on sait de changer le pain, de pierre en pain. C'est tout le matérialisme est là d'aujourd'hui. Mais on sent bien, on voit bien autour de nous que ça ne suffit pas à rendre heureux les gens. On a tout, mais on ne chante plus. Donc les anciens, ils étaient pauvres, mais ils chantaient tout le temps.
Et ça revient.
Alors, on a l'impression, ce qui nous réjouit, nous, on a l'impression que les jeunes générations, un petit peu, celles qu'on côtoie, parce que c'est vrai qu'on côtoie quand même essentiellement des gens de moyenne d'âge, puisque ceux qui viennent faire des retraites sont souvent de ce type-là, mais on rencontre quand même des jeunes, des très jeunes. Il y en a une qui est à l'Ermitage, qui a, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a une vingtaine d'années peut-être, et bien qui sont vraiment dans cette démarche-là, de cette recherche d'essentiel. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu nouveau, enfin, par rapport aux générations que j'ai connues, je trouve qu'il y a une émergence de quelque chose d'un peu nouveau, peut-être parce que le monde devient plus difficile aussi pour beaucoup, je ne sais pas. Je ne sais pas les raisons. Jusqu'à maintenant, on a eu surtout des personnes qui, d'un certain côté, avaient des racines chrétiennes, mais avaient tout abandonné. Et après, ils avaient fait leurs expériences pendant des années de tous les côtés. Et puis, un beau jour, à cause de difficultés dans leur vie et tout, bon, et finalement, après avoir tout essayé, ils disaient, mais peut-être, finalement, mes racines ne sont pas si mauvaises que ça. Je vais aller voir ça de plus près. Et voilà, ils se remettaient à creuser un petit peu leur racines. Et petit à petit, ça pouvait les amener, disons, jusqu'ici pour faire une retraite. Alors, on avait pas mal de ces personnes-là qui redécouvraient un petit peu leur foi après avoir un chemin d'abandon. Et puis, mais très peu de jeunes. On a eu pendant très peu de jeunes, par exemple, autour de 20, entre l'âge 20 et 30 ans, on a eu très peu. Hein. Et actuellement, c'est vrai que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a des jeunes qui ne viennent pas forcément du milieu chrétien, qui n'ont souvent aucune connaissance religieuse, aucune, vraiment aucune, mais qui viennent tout neufs, avec un désir de découvrir, avec un désir d'accueil. Et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux parce que c'est très important. Pour nous, ça nous fait du bien aussi. Et puis, j'allais dire, pour elles, on sent qu'ils sont dans une attitude juste. C'est une attitude d'accueil, alors qu'il y a eu pendant des générations une attitude de fermeté. Tout ce qui est chrétien, c'est l'ancien temps, c'est très rigide. Enfin bon, il y a eu plein de schémas comme ça. Et là, on est un peu dans une autre démarche, je trouve, qui est vraiment belle, quoi, pour nous. Hein. Et en même temps, qui réjouit parce que eux, ils sont dans la bonne pratique, j'allais dire, pour vraiment accueillir cette vie, quoi, qui est donnée à tous.
Ces canons au bruit étonnant. Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant? Pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine, faisons-nous la guerre aux gens? Ça fait marcher les usines. Et pourquoi ces usines qui n'ont rien qui vaille? Pourquoi ces usines, ça donne aux gens du travail? Et pourquoi ce travail dur et fatigant? Pourquoi ce travail, c'est pour gagner de l'argent? Pourquoi cet argent est-il donc si bon? ces canons pour faire la guerre, mon enfant.
On ne s'est pas présenté, votre prénom c'est ?
Delphine.
Bonjour Delphine. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici ?
En fait, moi je voulais faire une retraite cet été et en fait j'ai plein d'amis ici. Et quand je leur ai dit que j'avais besoin de faire une retraite et je ne savais pas trop où aller, ils m'ont rappelé à cet endroit-là dont j'avais déjà entendu parler.
Et qu'est-ce que c'est pour toi une retraite ? Pourquoi est-ce qu'on fait une retraite ?
En tout cas pour moi, c'est un besoin de se retrouver en étant accompagné avec un cadre extérieur qui vraiment me donne une discipline que moi j'ai pas forcément. Et il se trouve que la vie qu'il mène, moi c'est vraiment une vie que j'ai envie de mener.
Quand tu dis la vie qu'il mène, c'est quoi cette vie dont tu parles ?
En fait moi c'est une vie qui a du sens. C'est une vie qui a du sens parce que moi je vis à Paris, je fais un travail qui m'intéresse, mais je vis dans un appartement avec mes deux enfants et c'est une vie qui est déconnectée de la vie avec un grand V, je ne sais pas comment je pourrais dire. Ici, tu te lèves le matin, il parlait de rythme. Bon, la journée elle est rythmée par des temps de prière et après les activités qu'ils ont, par exemple, un matin, on a fait avec Paul, je l'ai aidé à vider un récipient de cire. Ils avaient accumulé de la cire des ruches. On a vidé le récipient. Et enfin, moi, je suis heureuse dans ces cas-là parce que, on avait à faire une action qui était utile, il fallait le faire. Et c'était ce qu'ils ont récolté des ruches, enfin, la cire qu'ils ont récoltée. Et cette cire, elle peut être recyclée. Donc, on a passé 2 heures à vider la cire qui va être recyclée. Enfin, voilà. Et je suis heureuse dans ces cas-là parce que c'est une activité qui est utile et en lien avec la nature, les abeilles. Enfin, voilà, c'est en lien avec la nature. Et cette manière de... Le travail que je faisais le matin aussi, par exemple, c'était cueillir les fruits, les faire sécher dans des séchoirs. Ils ont un séchoir solaire aussi. Et c'est des choses que j'ai... Enfin, j'ai toujours fait, d'autres que j'ai toujours voulu faire, je n'ai pas fait. Mais moi, ça me lie en fait à moi-même, des activités comme ça. Et moi, ça me rend vivante.
J'ai l'impression que c'est un peu un retour à l'essentiel.
Oui, c'est un retour à l'essentiel. En fait, moi, j'essaye de vraiment, dans la vie, voir quelles sont mes priorités pour pouvoir essayer de les vivre. Mais dans un quotidien, moi, je suis seule avec mes deux enfants. Tout à l'heure, Jean-Michel, il disait qu'ici, c'est facile, on n'a pas d'enfants. Dans un lieu comme ça, j'ai l'impression que je peux plus vivre... les priorités, c'est un lien à la nature, c'est dans leur disponibilité avec les autres aussi. Beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup d'écoute, et la prière.
Alors, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, j'ai l'impression que faire une retraite, ça va au-delà de la croyance, parce que tu voulais d'abord aller faire une retraite vipassana,
oui.
Donc orientée sur le bouddhisme. Ici, es dans un monastère,
oui.
Donc c'est deux choses différentes, et pourtant, tu fais le même travail sur toi.
Ben oui, parce qu'en fait, la source, c'est trouver la source, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai été baptisée, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait l'aumônerie jusqu'à 18 ans. Après, pour des raisons, je ne sais même pas pourquoi, j'ai quitté tout ça. Et après il s'est passé un événement dans ma vie qui fait que j'ai eu besoin de, enfin je me suis rendu compte que j'avais une vie intérieure en fait. Dans le milieu où je suis, c'est, même si j'ai beaucoup de, enfin moi j'ai des amis, je médite avec elles, je pratique, mais c'est pas forcément, quand je médite c'est pas forcément lié à, c'est lié à Dieu, à mon Dieu intérieur, mais après, moi j'en suis là de ma recherche. Voilà.
Ce qui est très important, c'est ce que dit, c'est la vie intérieure. Parce que de reprendre conscience aujourd'hui qu'il y a une vie à l'intérieur de nous-mêmes, ça semble simple, mais beaucoup ne sont plus en contact avec leur cœur profond.
Et puis, dans la solitude, c'est un aspect important, c'est de pouvoir donner aux gens un travail très simple, donc un travail manuel en général, qui va les décongestionner un petit peu au niveau cérébral et au niveau mental. Donc fendre du bois, par exemple, on a un dentiste là qui va venir. Bon, il aime beaucoup fendre du bois quand il vient ici, parce que ça change un peu de son travail habituel. Et puis, etc. Et rester en ermitage toute la journée, on pourrait tourner un petit peu en rond. Donc d'avoir un petit travail manuel, ça c'est précieux. Voilà. Et puis ils ont l'impression, ils rentrent dans la vie de la communauté aussi.
Et je retiens aussi la phrase de Paul qui disait « on n'a rien mais on a tout ». Et j'ai l'impression que dans la vie moderne, on a tout, mais finalement on n'a rien.
Mais s'il n'y a pas la vie intérieure, c'est vrai, on peut dire que l'essentiel manque, hein. L'ouverture à l'autre. Hein.
C'est pour ça que tout autour de nous, on a quand même beaucoup de gens qui font des choix de vie, hein, et des choix de retour à une vie simple. Hein. Ils le nomment à leur façon, mais c'est quand même ça. Hein. Mais je pense que c'est ça l'intéressant, c'est d'avoir aussi un entre-deux. Il ne s'agit pas de faire un absolu. Notre vie n'est pas un absolu. Non. Mais c'est que les gens puissent trouver quelques éléments pour continuer à vivre dans leur situation qui est un petit peu, bon voilà, avec des tensions. Ils ont un travail à faire, ils ont mais qu'ils vivent ça, qu'ils vivent ça. Bon.
Il y a un grand besoin aussi pour les gens d'être accueillis.
Un besoin pour ?
Pour les gens d'être accueillis, d'être aimés tels qu'ils sont. Aujourd'hui, c'est vraiment capital. Hein. Ouais. D'être reconnu comme personne, respecté.
Quel que soit le cheminement, voilà, quel que soit leur cheminement, quelle que soit leur histoire, là où ils en sont, voilà, nous, on s'enrichit aussi de tout ça. Il faut dire que l'accueil va dans les deux sens. Ce n'est pas nous simplement qui accueillons des gens. Hein. Nous, on reçoit beaucoup des personnes qui viennent ici. Parce que c'est eux, notre antenne dans le monde, un petit peu. Ils nous parlent de ce qu'ils vivent. Et finalement, on est en lien avec beaucoup de choses. Quoi.
Mais c'est une belle leçon pour moi aussi, parce que j'ai l'impression que les choses sont souvent très cloisonnées, même dans nos croyances, alors qu'en fait, que je me rends compte que la religion peut être un lieu d'accueil pour tous, quelle que soit sa croyance.
Oui,
on peut être bouddhiste,
oui.
On peut être quoi que ce soit, c'est pas fermé.
C'est un lieu de communion, sinon le même père. Non, mais c'est fondamental. Hein.
Puis on accueille des gens qui viennent en nous disant, mais moi, je sais rien, je viens là. Mais pourquoi je sens ce besoin d'une vie en moi, un désir d'une vie un peu en retrait pendant quelques temps. Et bien, on dit, mais viens, du moment qu'ils respectent notre vie, nous, on accueille tout le monde. Tu vois. Et on sait que ça va porter des fruits. On sait que, et c'est plutôt par notre retrait, par notre silence, et pas forcément parce qu'on va échanger peut-être beaucoup, c'est simplement, ils vont regarder, ils vont vivre avec nous à Chapelle, voilà, et puis ça va se passer tout seul, indépendamment de nous.
Est-ce qu'on pourrait être aussi dans cette recherche de profondeur, d'intériorité, en menant une vie moins simple, plus complexe, en habitant dans un appartement, dans une grande ville ?
Bien sûr, ah ben ça, c'est heureusement, sinon ça serait à désespérer de notre monde. Non, heureusement, il y a des gens qui vivent une vie très très profonde, bien plus profonde que la nôtre, je pense même, en étant dans des conditions de vie très difficiles. Parce qu'ils ils le vivent comme ça, en accueillant tout ce qui leur arrive. On a accueilli là des petites sœurs du père de Foucault, des disciples du père de Foucault, si vous voulez, bon, enfin, peu importe, mais qui sont vraiment dans la région parisienne, qui sont dans des HLM, qui vivent au contact de tous les pauvres à Saint-Denis, etc., mais qui ont une vie intérieure très, très profonde, quoi. Et elles travaillent, elles ont un travail à l'extérieur, elles travaillent. Hein. Il y en a une qui s'occupe du SAMU social à Paris, une autre qui, enfin, etc. Mais parce qu'elle fait ça, c'est toute une démarche de foi et de rencontre. Quand on rencontre nos frères, on rencontre Dieu, quelque part, pour nous. Donc, voilà.
Il y a aussi une question que je me pose. Aujourd'hui, on est souvent soumis au regard des autres, à la pression sociale. Quel est le regard que portent les gens, vos familles, la société, sur la vie que vous avez choisie ?
Ben, au début, ça a pu surprendre. Enfin, moi, pour mon cas, dans ma famille, bon, ben, ça a été quand même accueilli, mais ça a pu surprendre un petit peu. Ils auraient préféré un autre choix qu'un choix un peu radical qui les coupait quand même, qui me coupait beaucoup d'eux, quoi. Voilà. Donc, c'était un petit peu douloureux pour eux, j'allais dire. Mais ils l'ont accueilli du moment qu'ils ont senti que c'était un peu mon choix et que j'étais quand même adulte à ce moment-là. Donc, voilà, quoi. Mais tous les cas sont différents, là, hein, je pense, un petit peu. La société, ben, ça aussi, on s'en préoccupe pas trop de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de nous, d'abord. Mais c'est vrai que pendant des années, si on n'a accueilli personne, c'était un peu parce qu'on est arrivé dans les années 70 ici, où il y avait également un peu tout le mouvement des marginaux, des hippies dans le coin, là, qui reprenaient. Et on était un peu assimilés. D'ailleurs, on ne s'est pas défendu de ça, parce qu'on était un peu ça aussi. Donc, on était assimilés un petit peu à ces gens-là, qui venaient un petit peu vivre en communauté, ou plus ou moins, voilà, comme ça. Et pour les paysans du coin, bon, c'était vraiment une culture tout à fait étrangère, quoi. Et donc, ils ne sont pas forcément venus nous rencontrer, parce que... Voilà, on faisait partie de ces gens-là, quoi. Il a fallu beaucoup de temps, c'est la patience. Voilà. Après 40 ans, maintenant, ça va. Voilà, on est accepté partout.
Toutes ces civilisations rurales, hein. Voilà. Il faut du temps. Hein.
Donc vous êtes des néo-ruraux.
Voilà, on peut dire ça aussi.
Ah, ma foi.
Pour vous mettre dans une case, est-ce que je peux dire que vous êtes des moines paysans?
Voilà.
On essaie. Oui, on nous a déjà donné ce dénominatif-là. Mmh. Voilà, moines paysans, oui, pourquoi pas, oui. Mais les moines ont été beaucoup des paysans, hein, pendant très longtemps. Tous les cisterciens ont été des paysans pendant des siècles et des siècles.
Apporter beaucoup l'agriculture, hein, voilà. On le voit beaucoup.
Parce qu'on cultive le lieu où on est inséré. Et puis aussi, quand on voit tout le travail des anciens ici, toutes les terrasses jusqu'en bas, quand on ne peut qu'être plein de respect pour ce... Pour ceux qui ont fait ça depuis des générations, et on trouve trop dommage que tout ça soit abandonné en l'espace de 50 ans. Tout est abandonné, tout est livré aux sangliers et détruit petit à petit. Et je trouve que c'est un patrimoine qui mériterait plus que cela, quoi, et qu'il y ait des gens qui puissent encore, petitement, humblement, y travailler et continuer à mettre ce pays en valeur, quoi. Il y a eu tellement de travail qui a été fait là, dans ces coins.
Mais ça revient, les jeunes arrivent là, ils reprennent...
On espère, on espère beaucoup qu'il y ait ce mouvement, quoi, qui puisse se permettre. Mais il faut aussi que les autres laissent la place aussi pour ces jeunes, quoi. Et qu'on soit aussi, qu'on leur donne un peu de terrain, je sais pas, qu'on leur donne la possibilité de s'installer, ce qui n'est pas si simple.
Regarde d'ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Non mais c'est ça qui nous émerveille, de voir la réalité autour de nous, hein, ouais. La nature. Hein.
Et puis le vivant, quand on commence à comprendre, vivant, qu'en partant d'une graine, en partant de là, il y a un potentiel incroyable pour nourrir...
Et en étant hommes, tout le temps en lien avec le vivant, comme ça, c'est ça que je disais, tu te sens, tu vis plus,
tu es en lien tout le temps.
C'est une source d'émerveillement, mais ça n'exclut pas le combat, parce que c'est une lutte permanente, hein, l'agriculture.
Ouais.
Mais un émerveillement, mais sans limite, hein, pour celui qui sait voir. C'est la première parole de Dieu, hein, Saint Bernard disait, on apprend mieux auprès des rochers et auprès des arbres que dans le livre, donc...
Quelqu'un dans notre Tour de France nous disait, moi j'ai pas envie de parler de sobriété, mais d'abondance.
Ah oui, une abondance dans la nature incroyable. Ouais.
Ouais. La sobriété, je pense qu'c'est le fait de ne pas exploiter, c'est juste prendre ce qui est offert, accueillir ce qui est offert, ouais. Et pas vouloir rentabiliser. Ouais, c'est ça être sobre, quoi.
Simplicité me conviendrait mieux, moi, le mot simplicité. Ouais. Ouais.
Est-ce que quel est le lien pour vous entre la religion et l'environnement, l'écologie, si on a un?
Déjà, si on croit en Dieu, d'abord, ce serait bien de lire l'alliance avec du pape, et on parlera en long et en large. Mais le lien, c'est surtout, c'est un don de Dieu. La nature est nous nourrie comme le père nourrit ses enfants. Si c'est à travers la nature, c'est aussi Dieu qui nous nourrit, hein, c'est un don.
Est-ce qu'on parle de l'environnement, de la notion à la terre, à la planète, dans la Bible ou dans les anciens textes sacrés?
Ça commence avec ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout le début de la Genèse, il parle que de ça. Les étoiles, les astres, les plantes, les verdures, toute l'origine du monde. Hein. Il parle que de ça, en fait, au début. Ça en est plein.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.